nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Alors, de prime abord, ce dernier article du Credo peut nous sembler un peu fourre-tout. On y parle de baptême, de rémission des péchés, de résurrection des morts, de la vie du siècle à venir. Chacun de ces points, voilà, ça s'affiche, chacun de ces points justifierait une prédication à lui tout seul. Mais à y regarder de plus près, cet article nous interpelle, dans le sens où je trouve qu'il semble nous dire « et maintenant ?» Et maintenant que les fondamentaux sont posés, les articles précédents, Dieu le Père Créateur, le Fils Rédempteur, le Saint-Esprit Consolateur, l'Église, corps de Christ, qu'allons-nous faire de tout ça? Quel engagement, quelle vie, quelle espérance pour nous qui proclamons croire en tout ça? Et le premier point de cet article traite du baptême. Et nous notons que cet article diffère des autres en ce sens qu'il commence par l'expression « nous confessons », alors que si vous l'avez remarqué, les articles précédents, c'était « nous croyons ». Et dans le dictionnaire, le mot « confesser » a plusieurs significations selon le contexte, mais je pense que la signification qui correspond à ce contexte, que j'ai retenu dans le Larousse, et celle qui s'applique le mieux ici, c'est « proclamer publiquement ses croyances ». C'est cela, confesser, proclamer publiquement ses croyances. Et c'est exactement le but du baptême, proclamer, déclarer publiquement ce en quoi nous croyons, et c'est ce que nous avons l'habitude de rappeler à chaque culte de baptême. Nous notons la présence d'un mot associé au baptême, déjà rencontré dans les articles précédents, le mot « seul », « seul baptême ». Alors, on comprend bien l'importance de spécifier un seul Dieu, hein, plus encore dans le contexte polythéiste religieux dans lequel le credo a été écrit, mais un contexte dans lequel émergeait le judaïsme et le christianisme. Même chose pour Jésus, seul Seigneur, et pour son Église qu'il bâtit, dont il occupe seul la tête. Mais pourquoi un seul baptême? De quoi parle-t-on? Parle-t-on du mode d'administration du baptême, par aspersion ou par immersion? Est-ce qu'on parle du nombre de fois qu'une personne peut être baptisée dans une vie? Est-ce qu'on parle du sens du baptême? Est-ce qu'on parle de critères de validité du baptême? Sur ce point, le symbole de Nicée-Constantinople, le credo, donc, reprend en fait une grande partie d'un passage que nous trouvons dans l'Épître aux Éphésiens. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul dit « Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, un seul foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. » Dans le grand mandat qu'il donne à ses disciples, en Matthieu chapitre 28, Jésus leur ordonne de baptiser les futurs disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lorsque nous lisons le livre des Actes, nous nous trouvons confrontés à divers cas de personnes qui avaient été baptisées en dehors de toute référence au Saint-Esprit, ou même seulement du baptême de Jean, c'est-à-dire sans aucune référence à Jésus. Comme lors du baptême chrétien, ils étaient probablement baptisés par immersion, c'est ce qu'il semblerait que Jean pratiquait, mais ils n'étaient pas baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus l'avait prescrit. Et il est d'ailleurs notable de remarquer que les trois personnes de la Trinité, on a chanté la Trinité ce matin, c'est quelque chose qu'affirme le symbole de Nicée-Constantinople, Et on peut remarquer que les trois personnes de la Trinité étaient bien présentes au moment du baptême de Jésus. Le Fils, en la personne de Jésus, bien sûr. Le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, venue se poser sur son épaule. Et le Père, à travers la voix venue du ciel, et disant, proclamant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Donc si le symbole de Nicée-Constantinople a vocation à réaffirmer la doctrine de la Trinité, le baptême le fait également par son administration au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il ne s'agit pas que de paroles rituelles et bien sûr encore moins magiques. Hein. « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », c'est ce que nous disons à chaque fois, mais ce n'est pas ça qui valide en quelque sorte le baptême. Il s'agit vraiment d'un geste que nous accomplissons sous le regard de Dieu et en son nom, et qui donc à ce titre ne peut pas être pris à la légère. Baptisé par immersion, ça nous semble se placer dans la droite ligne de l'enseignement biblique néo-testamentaire. Mais il y a des cas pratiques où c'est tout simplement pas possible. Dans les pays où l'eau est très rare, par exemple, quand le baptisé présente une maladie ou un handicap incompatible avec l'immersion. La célébration du baptême, dans sa dimension spirituelle, dépasse de loin le mode d'administration. Alors bien entendu, nous pensons qu'il est sage d'obéir au commandement du Seigneur, même dans les détails et même dans la forme. Et dans la mesure où le baptême est un symbole, on ne peut pas modifier sa forme à sa guise. C'est pourquoi nous baptisons, ici dans cette église, par immersion. C'est pourquoi nous baptisons, ainsi que le Seigneur nous l'a demandé, nous l'a prescrit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais si nous abordons la pratique du baptême en termes de cases à cocher, il faut que ce soit par immersion, dans le cadre de l'Église, peut-être par un responsable d'Église prononçant les bonnes paroles, etc., de manière rituelle. Si nous avons en tête l'idée d'un baptême valable, parce que tous les ingrédients sont réunis, alors peut-être que nous passons à côté de l'essentiel. Le baptême, dans son sens profond, c'est le témoin d'une immersion qui dépasse de loin le fait de faire passer notre corps quelques secondes sous l'eau. C'est s'associer pleinement, s'identifier à Jésus-Christ dans sa souffrance. Lorsqu'il parle d'ailleurs du baptême lui-même, il en parle comme dont lui-même doit être baptisé, un plongeon dans l'angoisse et la souffrance comme il l'a vécu. Et la sortie de l'eau encore, c'est s'identifier à sa résurrection et à sa sortie du tombeau. Lorsqu'il parle de sa passion, je reprécise ce point, j'ai un petit peu cafouillé. Lorsqu'il parle de sa passion, Jésus parle de ce baptême dont il doit être baptisé, un baptême de souffrance et de mort, d'angoisse. Et d'ailleurs, avant cela, Jésus lui-même s'est identifié à nous en se faisant baptiser par Jean d'un baptême de repentance dont il n'avait évidemment pas besoin. En Jésus, Dieu s'est immergé dans notre humanité. Et donc le baptême est le témoin d'une immersion dans tout ce que nous avons vu et commenté précédemment, les articles précédents. Croire en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, c'est ce que nous avons vu la première fois. Croire en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé, d'une même substance que le Père et par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie et a été fait homme. Croire aussi qu'il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, qu'il a souffert, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité des morts le troisième jour d'après les Écritures, qu'il est monté aux cieux, qu'il est assis à la droite du Père, que de là il reviendra avec gloire pour juger les vivants et les morts, que son règne n'aura pas de fin. Croire en l'Esprit Saint, qui règne et donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui a parlé par les prophètes, qui, avec le Père et avec le Fils, est adoré et glorifié. croire, et c'est ce que nous avons vu dimanche dernier, en une seule Église, sainte, universelle et apostolique. Et parlons justement du lien entre l'Église et le baptême. L'Église a reçu délégation de Jésus pour baptiser ses disciples. C'est ce que nous voyons dans la fin de l'évangile de Matthieu, au verset 28. Et il y a même d'ailleurs un verset dans Jean, qui dit que Jésus avait déjà délégué la pratique du baptême à ses disciples bien avant cela. Ce sont évidemment des individus qui baptisent tel ou tel disciple, mais qui ont eux-mêmes reçu la délégation de l'Église. C'est l'Église qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'Église qui donne délégation à telle ou telle personne, pas forcément un responsable, mais tout de même avec discernement, pour baptiser tout croyant désireux d'être baptisé. Même dans le cas un peu extraordinaire, exceptionnel, du baptême que Philippe a administré à l'eunuque, dans des circonstances très particulières, en solitaire, hors du contexte de l'Église, il est évident pour moi qu'il a agi là aussi, dans le cadre de l'Église, avec la délégation implicite de l'Église. Une Église, donc, les circonstances faisaient qu'il était le seul représentant présent et qu'il lui était impossible de la rassembler en ce lieu désert, loin de Jérusalem. Et là, j'en profite peut-être pour signaler une expression qu'on entend un peu trop souvent, à mon goût, « je me baptise ». On entend assez régulièrement dans les témoignages de baptême, aujourd'hui, je me baptise. Alors je comprends bien qu'il s'agit là d'un raccourci de langage, mais je trouve que le sens du témoignage est vraiment altéré. Quand on entend cette expression, voilà pourquoi je me baptise aujourd'hui. Personne ne se baptise, on se fait baptiser. On peut dire aujourd'hui je serai baptisé, je suis baptisé. Et c'est d'ailleurs ce que Pierre dit en acte 2, « Soyez baptisés, mais jamais, jamais baptisez-vous. » Le baptême n'est pas quelque chose que l'on fait, mais quelque chose que l'on reçoit. Si on demande à l'Église de respecter une certaine rigueur dans le rituel du baptême, et c'est légitime d'attendre cela de l'Église, il est tout aussi légitime d'attendre du baptisé une expression claire de ce que nous accomplissons ensemble en Église. La préparation au baptême permet aussi d'aborder précisément avec clarté toutes ces questions afin que les choses essentielles soient posées et qu'il n'y ait pas d'incompréhension ni de malentendu. Et j'en profite pour dire aussi que depuis quelques années, nous encourageons les baptisés à suivre un parcours jeune chrétien d'une année, car le baptême n'est pas une fin en soi, c'est plutôt même le début de toute une vie d'engagement chrétien. Dans sa première épître, Pierre parle de l'engagement d'une bonne conscience, d'une conscience pure. Et cela nous amène au deuxième point. Le deuxième point qui parle d'un baptême pour la rémission, ou selon d'autres traductions, pour le pardon des péchés. Alors nous, chrétiens protestants de la branche évangélique, on peut être surpris entre cette association entre baptême et pardon des péchés. Nous sommes même très soucieux de ne pas attribuer au baptême la fonction de dispenser le pardon, de dispenser une grâce. Nous insistons fortement sur le fait que nous recevons la grâce par la foi, et que le baptême exprime une grâce déjà reçue par la foi. Mais nous avons un verset tout de même qui peut nous troubler et qui convient d'être un peu développé, qui se trouve dans la première épître de Pierre, et je vais le lire. Voilà. Je le lis à partir du verset. Le verset 20 est un verset qui situe le contexte. Dieu faisait preuve de patience à l'époque où Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvées à travers l'eau. Et le cœur du sujet commence là. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Cela est possible, tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Ce verset semble accréditer de prime abord que le baptême, l'eau du baptême, nous sauve de nos péchés, que le baptême dispense la grâce du pardon des péchés. Alors, je dois déjà dire que le texte semble, d'après ce que je peux lire dans les différentes traductions, poser problème aux traducteurs qui ressortent suivant les versions de manière très différente. Mais au-delà de ça, essayons de nous replacer dans le contexte. De leur temps, et c'est à cela qu'est confronté Pierre, les apôtres sont confrontés à l'opposition des Juifs. Toute une partie de l'épître, de cette première épître de Pierre, reprend des textes de l'Ancien Testament pour démontrer en quoi ils annonçaient ces textes de l'Ancien Testament et concernaient Jésus-Christ, qu'avec sa venue, les choses ont changé. Si on remonte un petit peu plus avant, verset 18, « Jésus-Christ a souffert une fois pour toutes », sous-entendu contrairement au sacrifice qui était renouvelé de jour en jour. Les rituels de purification avec l'eau n'avaient qu'un temps, tel qu'ils étaient pratiqués par les Juifs, et c'est ce qu'il défend ici. Et de toute façon, il notait pas les saletés du corps, il notait que les saletés du corps, pardon, et pas celles du cœur. Mais la différence entre Pierre et nous, ce sont les 2000 ans d'histoire de l'Église et les pratiques diverses qui se sont développées au cours de ces 20 siècles. Pierre n'y était pas confronté de son temps. L'idée d'un baptême qui agirait par lui-même, indépendamment de la foi de celui qu'il reçoit, lui était totalement étrangère. Pierre ne pouvait pas imaginer qu'on en viendrait dans quelques siècles à baptiser des nourrissons avant même qu'ils aient pu prendre quelque forme d'engagement que ce soit en pleine conscience. Et il en est de même pour le credo. Lorsque le credo, le symbole des Nicéens de Constantinople, commence à être rédigé au concile de Nicée en 325, le baptême des nourrissons n'était absolument pas pratiqué. Ce n'est qu'un siècle plus tard, au concile de Carthage, en 418, que cette pratique est instaurée comme permettant aux enfants d'être sauvés par la foi de leurs parents. Et d'autre part, au temps apostolique, au temps de l'Église primitive, qu'on lit dans les Actes, se faire baptiser signifiait bien souvent la mise au ban de la société, la persécution. Personne ne recherchait le baptême, ne recherchait dans le baptême une quelconque reconnaissance familiale, encore moins sociétale. Être baptisé était souvent dangereux. Seule une foi absolue en Dieu et une volonté déterminée d'obéissance à Jésus-Christ pouvaient motiver une demande de baptême. À ma connaissance, je ne vois qu'une seule exception, celle de Simon le magicien, si ça vous dit quelque chose, en acte 8, par intérêt mercantile. Mais la sévérité de Pierre à son égard témoigne du côté exceptionnel de la chose. En dehors de ce cas, je ne vois pas dans la pratique de l'Église primitive de baptême sans conversion. De même que d'ailleurs, je ne vois pas non plus de conversion sans baptême. Et bon an, mal an, cet état de fait perdure encore au moment où se tient le concile de Nicée en 325. Alors c'est vrai que l'empereur Constantin a promulgué 12 ans plus tôt l'édit de Milan qui met un terme définitif, définitif dans le monde romain, à la persécution des chrétiens. Mais l'Église sort de plus de 2 siècles de persécution, dont la dernière remonte à moins de 20 ans. Enfin, tout ceci pour dire que ni le Nouveau Testament, ni les rédacteurs du Credo ne sont confrontés là à l'amalgame qui se développera plus tard entre baptême et conversion. Dans la logique biblique, s'il y a baptême, c'est qu'il y a conversion. Et c'est bien ce que Pierre, d'ailleurs, déclare à la foule, hein, lors de la Pentecôte à Jérusalem, cette foule qui est touchée par son discours et qui demande « qu'est-ce qu'on doit faire ?» Changez d'attitude et soyez baptisés. Convertissez-vous et soyez baptisés. Quand on parlait d'un baptisé, il s'agissait d'un converti. Et il y a là une forme de raccourci de langage qui ne posait problème à personne. Ce sont seulement les 20 siècles d'histoire de l'Église qui nous ont amenés à une certaine prudence et à faire la distinction entre baptême et conversion, une distinction devenue nécessaire à cause des pratiques apparues ultérieurement. La prévention dont Pierre fait preuve à propos de ce que le baptême, dans ce texte, de ce que le baptême est, l'engagement d'une conscience pure, et n'est pas le lavage des impuretés du corps, cette prévention réside dans le risque de confusion pour les chrétiens d'origine juive avec les rites de purification de la tradition juive. Pierre ne semble pas ici préoccupé entre l'amalgame entre conversion et baptême. C'est son expérience avec Simon le magicien semble être un cas isolé. Mais on n'en note pas moins que Pierre relève que le baptême n'en est pas moins un engagement de foi, un engagement d'une bonne conscience ou d'une conscience pure, c'est-à-dire que de la conscience que nos péchés nous sont pardonnés, que nous sommes en paix avec Dieu. Le rituel du baptême étant le signe de cette grâce reçue par la foi. Et en tant que signe, je trouve que le baptême est d'une efficacité extraordinaire. Nombre de personnes qui désirent s'approcher de Dieu, mais peut-être ne sachant pas comment s'y prendre, viennent demander le baptême auprès des responsables d'Église. Alors, de nos jours, elles ne sont pas à la recherche d'une quelconque reconnaissance. Elles sont juste animées par un désir profond de paix et de mettre leur vie en règle avec Dieu. Mais juste qu'elles ne savent pas comment procéder. Et peut-être elles ont en tête des images ou des témoignages de baptême. Et avec ces images, elles ont peut-être une perception un peu vague. Qu'en demandant le baptême, elles seront guidées par l'Église pour trouver le chemin. J'ai personnellement d'émouvants souvenirs de personnes se lançant dans la préparation au baptême sans avoir vraiment fait une profession de foi, mais découvrant au fil des séances de préparation, découvrant Jésus et s'engageant dans la foi lors de ces rencontres. Alors si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas, contactez les responsables de cette église qui sauront vous prendre en charge. Et si vous ne les connaissez pas, ça ne fait rien, parlez-en à votre voisin, de fil en aiguille, vous les retrouverez, une personne que vous connaissez qui vous mettra en relation. Alors il ne nous reste plus beaucoup de temps pour traiter les deux autres points, la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Dans quelques semaines, nous allons fêter Pâques. Nous aurons l'occasion de proclamer la résurrection de Jésus et sa victoire sur la mort. Nous pourrons réaffirmer notre espérance en notre propre résurrection après notre mort. Pâques est le rendez-vous incontournable de tous les chrétiens, plus que Noël, car c'est vraiment là que notre foi est mise à l'épreuve. Paul dira à des personnes prétendant croire en Jésus, mais niant sa résurrection, que s'il n'est pas ressuscité, notre foi ne s'appuie que sur le néant. Comment échapperions-nous à la mort éternelle si celui qui est venu nous en délivrer ne l'a pas vaincu lui-même? Si celui qui est devenu péché pour nous, c'est pas lui-même relevé de la mort, une mort qui le sanctionnait pour notre péché. Dans ce cas, s'il n'est pas ressuscité, nous n'aurions pas avancé d'un pouce. Croire ne servira à rien et nous serions toujours dans nos péchés. Je vais refaire un parallèle un instant entre la signification du baptême et la résurrection, de même que le baptisé s'identifie à Jésus dans sa mort au moment où il est immergé dans l'eau. Il s'identifie aussi à sa résurrection au moment où il ressort de l'eau. Jésus ressuscité est sorti du tombeau alors qu'une lourde pierre en barrait le passage. Ceux qui sont venus dégager cette pierre, plus tard, ont trouvé un tombeau déjà vide. Et de même, là, on ressort la personne de l'eau aussitôt après lui avoir plongé. On n'attend pas d'avoir vidangé le baptistère, heureusement. L'expression du siècle à venir parle de notre vie éternelle auprès de Dieu, dans laquelle Dieu essuiera toute larme de nos yeux, où le mal ne sera plus, et de nouveaux cieux, de ces nouveaux cieux et de cette nouvelle terre que nous attendons. Comme moi, et j'ai cru comprendre ce matin que je n'étais pas le seul, vous êtes peut-être très affectés par les orientations que prend notre siècle. Comme moi, vous êtes peut-être consternés de voir le mensonge prospérer et la brutalité mise en exergue. Mais la question que ça nous pose, c'est faut-il que ces choses arrivent pour que nous attendions ardemment le retour du Seigneur? Notre Seigneur nous a prévenus. Faites attention que personne ne vous induise en erreur. Plusieurs viendront sous mon nom, disant « Je suis le Messie », et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas troubler, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Peut-être avez-vous reçu dernièrement, ou de manière plus ancienne, des prospectus ou des messages annonçant la fin du monde de manière plus ou moins précise. Moi, pas plus tard que cette semaine, j'en ai reçu un l'annonçant pour 2060. En précisant une date, ce genre de prophétie se discrédite d'elle-même. Mais sous d'autres aspects, discerner le bien du mal, la vérité du mensonge, ce n'est pas toujours si simple. Et bien souvent, il nous faut aussi admettre que les choses ne nous apparaîtront vraiment clairement que dans cette vie à venir en laquelle nous espérons. Mais pour ce qui est du retour de Jésus, lui-même nous l'a décrit. Quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant. Ce sera soudain et évident pour tous ceux qui auront cru en lui. Veillez plutôt que guettez. Être prêt à chaque instant plutôt que chercher à connaître l'instant. Une personne me demandait un jour ce qui se passerait lors de l'Apocalypse, quels seraient les événements qui se dérouleraient et comment s'y préparer. Moi, à cette question, on pourrait rentrer dans les détails et de disséquer l'Apocalypse et les autres écrits qui en parlent, mais la réponse qui me vient à l'esprit le plus spontanément et qui me semble être la plus logique, c'est celle de Pierre à ceux qui demandent ce qu'ils doivent faire après son discours à la Pentecôte. Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus pour que vos péchés soient pardonnés, alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen.